EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu, c'est elle qui nous révèle sa nature et c'est à cause d'elle que nous découvrons qui est-ce que nous adorons réellement en esprit et en vérité. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ. Nous avons commencé à apprendre des choses qui concernent l'adoration dans un contexte de culte d'une église locale, puisque notre grand sujet de la semaine, c'est un peu comprendre l'adoration. Au premier jour, on a étudier les termes en grec, en hébreu. Maintenant, on est en train d'étudier les caractéristiques, les choses qui faisaient partie du premier culte des chrétiens lorsqu'ils se rencontraient dans l'ancienne église autrefois. On a appris 4 choses hier et aujourd'hui, on va apprendre 6 nouvelles choses. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. 5, le point 5 donc, parce qu'on a fini par 4 hier, point 5 aujourd'hui. L'une des choses qui faisait partie du culte et qui exprimait donc l'adoration collective du peuple de Dieu, de l'Église, la première Église, ce sont les cantiques, au pluriel. Les cantiques. Ouh, je dois être sincère qu'aujourd'hui, c'est l'un des ministères les plus complexes à l'Église. Le but des cantiques dans la première Église n'était pas qu'elles soient performées, soient présentées. Qu'il n'y ait pas un show où des gens le font et les autres les entendent le faire. Mais c'était quelque chose qui devait se faire collectivement, ensemble. De fois, on devait même se chanter cela avec une telle relation. Paul parle d'une telle corrélation qui donnerait l'impression qu'on est en train de s'échanter ensemble. Je chante pour toi, tu chantes pour moi. On se tient à la main. Il y a une certaine relation pendant ces temps de chanter. Les cantiques faisaient partie du culte et de l'adoration. Les cantiques ont une place importante dans notre présentation du culte à Dieu. Et les cantiques ne s'arrêteront pas avec l'église locale parce qu'elles n'ont pas commencé avec l'église locale. Elles ont commencé dès la création, Dieu posant les fondements de l'univers avec les chants des anges. Et les cantiques, après que l'église soit enlevée, on continuera à chanter. Il n'y aura pas seulement l'adoration qui deviendra une activité éternelle, mais les chants vont suivre. Parce que les chants sont l'une des expressions fortes de l'adoration. Les cantiques est tellement lié à la manière d'exprimer la vénération et la grandeur de celui pour qui l'on chante. Donc, ce ministère de musique est très, très important à prendre en compte. Les cantiques faisaient partie des premières églises. Quand je dis cantique ici, c'est une façon de parler, de juste dire en général. Mais Paul cite 3 types, 3 catégories. Il parle des hymnes, des psaumes, et ce qu'il appelle des cantiques spirituels. Commençons d'abord par lire Marc chapitre 14, verset 26, juste pour voir une preuve que ce n'est pas une chose qui a commencé après la mort de Jésus. Je vous ai dit la dernière fois que les habitudes de la première église ont commencé dans la vie que les disciples avaient déjà avec Jésus. En vivant déjà avec les premiers apôtres, Christ bâtissait déjà son église. Marc chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On parle ici de Jésus et des disciples. Après avoir chanté les cantiques, les psaumes, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ils ont chanté des cantiques. Jésus a prêché, il a prêché, il a prêché les prédications incroyables, des miracles. Mais à la fin, avant de se rendre à la montagne des Oliviers, là où ils allaient souvent pour aller se reposer, ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter des cantiques. Vous ne pouvez pas vous passer des cantiques. Il y a l'extrémité où certains vont, où les cantiques et la musique deviennent tout du culte, et ça devient même ça, la définition de l'adoration, ce qui n'est pas équilibré. Il y a aussi l'autre extrémité où les cantiques deviennent si contrôlés, si réglementés, par peur justement de l'excès, qu'il ne s'agit plus de cantiques, il s'agit juste des récitals, des répétitions qu'on regarde dans un livre pour lesquels les cœurs ne s'y attachent vraiment pas. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ont les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. Le cantique de la première église n'était pas seulement le cantique un groupe de louanges chantées. Non, des fois les cantiques venaient d'un individu, d'une personne. Et ça faisait partie des pratiques de la première église où il y avait des cantiques spontanés aussi. Alors, les cantiques doivent avoir leur place. Les cantiques ne sont pas une performance que nous venons, jambes croisées, regarder les professionnels faire. Lorsqu'on participe au culte qu'on vient pour adorer Dieu, on devrait verbaliser aussi les cantiques. Pas parce qu'on a la meilleure voix. Chantez avec votre voix bizarre, là, pauvre, que vous n'aimez pas, mais mettez-les sur vos lèvres, chantez. Dieu ne peut pas vous demander ce qu'il ne vous a pas donné. Le Seigneur ne vous demandera pas de chanter merveilleusement bien pendant qu'il ne vous a pas donné ça. Tout ce qu'il veut vous entendre faire, c'est « Car il est glorieux et digne de régner ». Quand on chante à l'église, on ne cherche pas une chorale harmonieuse dans l'assemblée. On cherche des cœurs qui expriment. Vous pensez que Dieu, en ce moment-là, il s'est dit « Oh là 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 là, toi, franchement, tu ne sais pas chanter ». Non, il est content. Regardez, vous avez déjà vu un amoureux qui veut juste exprimer à celui ou celle qu'il aime, combien il aime, et ce jour-là, il veut chanter pour lui. Mais l'atmosphère qu'il faut, belle fleur, il vient en chantant. Elle s'en fout de sa voix. Il peut même avoir honte en disant, mais quelle voix tu chantes? Le plus important, c'est qu'il a chanté, même quand il ne sait pas chanter, c'est l'expression de son cœur. Le chant est un instrument puissant qui permet à nos cœurs de s'exprimer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, il faut les chanter. Et quand nous chantons, Dieu sait qu'il y a une connexion directe avec notre cœur. Chantez les cantiques, ça fait partie de votre expression d'adoration. Vous n'êtes pas venu voir les autres chanter et dire « Ah, moi vraiment, je chante comme une casserole ». Dieu veut aussi entendre les casseroles. Imaginez-vous, j'ai bâti sur la table, vous avez entendu? C'est un bruit normalement. Ça fait partie des éléments qu'on met ensemble pour créer finalement les différentes sonorités de ce que vous allez appeler musique. Il fut un temps où la musique, c'était juste l'art d'arranger les sons de manière agréable à l'oreille. Avec le temps, on a découvert que ce n'est pas juste quelque chose d'harmonieux ou de mélodique. La musique, finalement, c'est un mélange et des sons qui ont des hauteurs, mais aussi avec des bruits. Les percussions qu'on frappe, les mains, les tambourins que vous trouvez dans la Bible. S'il y a même un instrument que nous utilisons à l'église tous ensemble, qui fait que tout. Et si toi, tu chantais comme une casserole, Dieu n'entendrait pas ça? Les cantiques font partie de notre adoration et de notre culte collectif. Je vous lis Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ce que Paul leur dit. Avant, il leur dit, ne vous énervez pas devant cette débauche. Par contre, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il commence à leur dire, entretenez-vous par des cantiques. C'est là le moyen. J'aime quand la version Parole Vivante dit, comment ? Entretenez-vous. Donc, pose la question que comment on fait alors pour être rempli du Saint-Esprit? C'est comme ça, c'est l'un des moyens. On s'est dit dans l'Église, mais bon, le culte n'a pas été spirituel. Si les gens n'ont pas fait l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, s'il y a un des domaines dans lequel il faut aller voir, c'est qu'est-ce qu'on a chanté? Comment le ministère de la musique s'est exercé? La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Le mot qu'on traduit, c'est pas psaume en grec, signifie gratter sur, comme on gratte sur un instrument de musique. Ça ne veut pas seulement dire chanter, ça veut dire aussi jouer en même temps. Donc, il ne s'agit pas seulement de venir avec nos voix, mais aussi avec nos instruments. Ça veut dire jouer, gratter, jouer. C'est un peu comme toucher à la corde, pincer la corde d'un instrument de musique. On vient pour jouer, chanter, battre nos mains, glorifier le Seigneur. Ça fait partie de notre culte et c'est la voie par laquelle on est rempli du Saint-Esprit. Sixièmement, les prières. Il y avait les prières, toutes sortes de prières. Le culte est un culte où on vient adorer Dieu. Parce que c'est aussi un temps où on vient prier. Quel que soit ce que vous êtes en train de demander à Dieu, que vous fassiez une intercession, que vous chassiez des démons, ce que vous êtes en train de faire là, reste toujours une adoration à Dieu. Pourquoi vous le faites en position de prendre conscience que le Tout-Puissant existe? C'est lui qui est source de ma force. C'est par lui que j'ai autorité de chasser ces démons. Quand je suis en train de demander, je le considère comme qui? Écoutez, la première phrase, Jésus nous pousse à dire, on se prépare à faire des demandes, mais il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le fait même de le nommer tant que tel avant de lui parler d'une demande, c'est déjà ça, une adoration. Toutes sortes de prières. Les premières églises étaient là pour prier. Prier, mes amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans nos cultes? On chante, on écoute quelqu'un prêcher, on reçoit des annonces et on part. On s'est demandé, on a prié à quel moment? Non, mais pendant qu'on chantait là, quelquefois les gens pouvaient prier. Mais il faut de temps en temps qu'on se rende compte qu'on ne chante plus, on prie. La musique reste un support quelque part. On ne chante plus, on prie. Et même quand on chanterait spontanément nos prières. La prière a sa place dans nos réunions, elle fait partie de notre dévotion. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 25. Acte 4, 23 à 25. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple ?» Voilà, on vient leur raconter une histoire. Écoutez, nous venons de chez les sacrificateurs. Ils ont dit qu'on arrête de prêcher Jésus et tout ça, tout ça là. Non, ils se mettent à prier directement. Mais combien de fois aujourd'hui on ne voit pas des réunions, des rencontres des enfants de Dieu? Ils se sont rencontrés, ils ont parlé de tout. Chacun a donné ses rapports. Je n'ai pas dit qu'à chaque fois qu'on vous parlait ensemble, ça doit se tourner en prière. Mais je suis juste en train de dire qu'il y a des occasions qu'on a raté de prier. On a même tous dit, ah, il faut prier pour ça. Mais personne n'a élevé la voix. Les rencontres, les réunions, que ce soit dans la grande assemblée le dimanche ou dans les réunions des départements ou quoi que ce soit, ce moment où l'Église se rencontre, c'est pour prier. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Vous voyez comment il met ça? Ayez toujours de la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce à tout. Voilà l'attitude que vous devez avoir, vous autres Thessaloniciens. Gardez la prière au centre. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il est en train de leur parler de la qualité de vie qu'ils doivent avoir ensemble. Il leur dit, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes. Quand vous rencontrez, faites toutes sortes de prières. Quand c'est pour intercéder, intercéder. Quand c'est pour chasser des démons, chasser des démons. Quand c'est pour votre consécration, quand c'est pour demander pardon, toutes ces prières que nous faisons font partie de notre adoration dans un culte collectif. 7. Manifestation des dons de l'Esprit. Hier, je parlais du fait d'être baptisé de l'Esprit. Maintenant, je suis en train de parler du fait qu'à la première église, on laissait de la place aux différents dons spirituels d'être en action. On laissait de la place aux différentes manifestations de l'Esprit. Ce n'était pas seulement l'enseignement, la lecture et la prédication, mais c'était aussi guérison, prophétie, parole de connaissance. Ça s'appelle un culte parce que l'Esprit est venu glorifier Jésus. Ça s'appelle de pneumaticos, des signes de manifestation, des preuves qui montrent qu'il est là au milieu de nous. Paul finit tout son argument de Actes des Apôtres, chapitre 12, 13, 14. Il est fini parmi les phrases qu'il dit. Il dit, quand il vient un non-croyant au milieu de vous, les pensées de son cœur sont révélées. Écoutez, il dira que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ça le but de ces dons-là. Ça se manifeste après que ça s'est manifesté. On dit, il était là. C'est pas parce que le prédicateur était captivant. Il était là. Comment tu l'as su? J'étais au culte la dernière fois. Dieu était là. Parce que si vous dites que vous êtes allé l'adorer, il doit avoir été là. Dieu était là. Il n'a pas descendu un feu physique, mais il était là comment? le nématikos, les manifestations de l'esprit. Dieu a donné ces manifestations pour que celui qui nous a vus adorer se rende compte qu'on ne s'est pas prosterné en vain. Notre Dieu était là. Ceux qui vont adorer des idoles adorent une statue qui est là présente. On le voit tous aller embrasser l'idole. Mais notre Dieu, on ne le voit pas physiquement. Comment on saura qu'il était là? Alors l'esprit manifeste dedans. Au point que quand quelqu'un vient et dit « Waouh, les guérisons que je vis, les paroles qui ont été données, la connaissance du... Ouh, c'était trop fort. Dieu était là. » Romains chapitre 1, verset 11. Dans la version parole vivante dit « Car j'ai le vif désir de vous voir et de faire votre connaissance. Je voudrais vous être en bénédiction, vous apporter quelques dons spirituels qui contribuent à votre stabilité dans la foi. » Le verset qui suit dit, il change son langage et dit, mais je ne viens pas seulement vous édifier, qu'on puisse plutôt s'édifier ensemble. Mais il est clair, il dit, quand je veux venir vous apporter quelques dons spirituels. C'est un apport important et considérable dans nos réunions. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. Je vais lire dans la version parole vivante. N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas, par votre conduite, la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Paul leur dit, les amis thessaloniciens, ne mettez pas de côté cette affaire des révélations prophétiques. N'éteignez pas l'esprit. N'empêchez pas l'esprit d'agir au milieu de vous et de vous donner des instructions. Quand il parle, laissez-le parler. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10 à 11. 1 Pierre 4, 10 à 11. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il utilise pour le bien des autres et les met à leur service comme il convient à des bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Avez-vous reçu le don de parler, annoncer les messages de Dieu selon sa parole et transmettez aux autres ce qui vient de Dieu? Exercez-vous un ministère diaconal, appliquez votre tâche, accomplissez votre tâche avec la force que Dieu vous donne. Dans tous les cas, agissez de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, car à lui sont dues la gloire et la puissance au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. On montre aussi comment on laisse la manifestation de dons. Et ce n'est pas seulement le don de prophétie ou de parler en langue. On dit quand quelqu'un, c'est lui, il a la capacité de parler ou de présider, qu'il le fasse. Quelqu'un fait une œuvre diaconale, qu'il le fasse. Les cultes, c'est un moment où on laisse la manifestation de plusieurs dons. La raison pour laquelle on a des frères au protocole et des sœurs au protocole, certains à la musique, d'autres à la sécurité, d'autres en train de s'occuper des enfants, un autre en train de prêcher, c'est déjà des dons qu'on laisse s'exprimer parce que c'est ça un culte et c'est l'adoration. Alors, quand vient alors le moment de laisser aussi les dons comme guérison, prophétie, parole de connaissance, laisser s'exprimer tout ça. Parce que ce sont des différentes manifestations de l'esprit qui prouvent la présence de Dieu au milieu de nous. Si le frère qui va prendre la parole pour prêcher l'évangile va nous démontrer que Dieu connaissait nos problèmes et qu'il nous a parlé, c'est la même chose que le frère qui va prendre la parole pour pouvoir donner un message prophétique. Le culte de la première église, dans l'adoration de ce culte-là, les manifestations de l'esprit en faisaient partie. 8. Guérison. J'ai dit guérison et délivrance. Pourquoi? Parce que la plupart des guérisons que Jésus opérait, même que les disciples opéraient, les gens étaient guéris de leurs maux, mais la source de cette maladie, c'était un esprit mauvais. Donc, il s'est opéré une délivrance qui a conduit une guérison. Et ça, c'était régulier, c'était important, c'était utile. Dans le culte, dans notre adoration, Dieu répond. Et dans la réponse de Dieu dans le culte, se trouve la manifestation de dons et la particularité de l'exaucement dans ce domaine des guérison et des délivrances. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Autant qu'on va laisser parler, prophétiser, il y a un moment où les gens doivent être guéris. Luc chapitre 13, versets 14 à 16 a toujours été un des textes qui m'a beaucoup touché. Luc 13, 14 à 16. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, ouf, oh, ce texte me fait mal. Ce monsieur est indigné parce que Jésus a guéri quelqu'un et la raison de son indignation, c'est qu'il a fait le jour du sabbat. Vous savez, des fois, on peut devenir religieux à l'église sans s'en rendre compte. Combien de gens s'attendent à une manifestation de guérison ou de délivrance à un culte de dimanche? Aujourd'hui, c'est comme si c'est Dieu qui vient dans nos cultes de dimanche. On dit, Seigneur, hey, on sera bien habillé, tu sais. Seigneur, on sera propre, on sera bien, ça va être vraiment très classe. Viens à notre culte de dimanche, tu vas voir. Et Dieu vient, il nous voit faire nos trucs. On finit, il dit, bon, c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est pas ça, mes amis. C'est nous qui nous rendons chez le Seigneur le jour de repos, où lui, assis sur son trône, nous accueille dans sa présence. Nous sommes dans sa maison. Ce qu'il décide de faire, c'est lui qui décide de faire. Et dans la maison de Dieu, quelqu'un de malade, hein, une fille d'Abraham, a dit Jésus, qui était là sous la puissance de l'ennemi. Et parce que c'est un sabbat, c'est un dimanche, quand même, on est bien habillé, quelqu'un ne peut pas tomber au sol comme ça, être libéré des esprits mauvais ou être guéri. C'est quand même un dimanche. Si vous voulez les guérir, faites un service spécial un samedi, un jour de la semaine, il sera plus relax. Là, il était quand même en veste, il a pu tomber. Oh, vraiment, on ne libérerait pas quelqu'un parce qu'il est trop habillé. On ne guérirait pas quelqu'un les dimanches parce que vous regardez la montre. Les dimanches, on appelle ça un jour du Seigneur. Comment c'est seulement à lui, avec lui, qu'on passe peu de temps? Ah oui. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Oh » Jésus ne l'a pas raté. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, on sait que les délivrances, ça se passe en semaine. Hein? Le dimanche, c'est un culte de louange et d'adoration. Et qui vous dites, si vous dites louange et adoration, vous avez dit délivrance. Vous avez dit guérison. Dieu peut guérir et devrait guérir. À chacune de nos rencontres, on devrait lui donner la liberté de le faire. Et n'est jamais se dire, ça c'est une rencontre où normalement Dieu, ici tu guéris pas, hein, Seigneur, aujourd'hui c'est que la louange, hein, on veut pas te... Est-ce que même quand le groupe de louange prépare sa musique, prépare ses chants, est-ce qu'il y a l'attente, de l'expectative que nous allons là-bas pour que nos chants de louange amènent guérison? Ou bien ça dit, nous allons là-bas juste pour que ça crée l'atmosphère. Quand nous allons avoir journée spéciale de prière et de guérison, là ils prennent conscience que nos chants doivent apporter guérison. Et mes frères et sœurs, c'est chaque dimanche, c'est chaque lundi, c'est chaque mardi, c'est chaque jour qu'on se rencontre. Ça fait partie de notre culte et de notre adoration. 9. Offrande et collecte. Dans les cultes et dans l'adoration du peuple de Dieu dans la première église, les offrandes et les collectes en faisaient partie. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir de versets 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Le réveil est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu. Parmi les signes du réveil se trouve la libéralité. Aujourd'hui, on cherche le réveil en train de regardez du côté de nombre de personnes guéries, nombre de malades, nombre de personnes baptisées du Saint-Esprit. Mais non, l'un des signes du réveil, qu'un éveil spirituel puissant est entré dans les gens, c'est qu'ils ne donnent pas seulement ce qu'ils sont, ils donnent aussi ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui réfléchit très bien sur son lendemain, qui a une planification financière très assidue, qui a travaillé dur et qui a même eu un crédit pour avoir ce qu'il a? Qu'est-ce qui peut le pousser un bon matin à se dire « Je donne ma voiture à l'église. Je vends ma parcelle pour l'œuvre de Dieu. » Ça ne peut être que le Seigneur. Ça ne peut être qu'un réveil intérieur en lui. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà comment des collectes se font pour aider les autres. Philippiens chapitre 4, 18 à 19. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Leur collecte est considérée comme une adoration. Leur aide qu'ils ont donnée à l'homme de Dieu qui était en mission, une aide missionnaire est considérée comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu agrée et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. 10. Et enfin, dernière chose, la scène du Seigneur, ce qu'on aime appeler la Sainte Cène. Quand ils se rencontraient autour de la scène du Seigneur. Quand ils se rencontraient, il y avait ça au milieu de leur réunion. Ça faisait partie de leur culte et leur adoration. Partager ces symboles forts. N'allez pas à l'église en vous disant, bon, moi je ne partage pas la Sainte Cène, je n'ai pas encore été convaincu d'être baptisé. Ça m'a toujours fait mal. Quelqu'un qui est convaincu d'abandonner les péchés et n'a pas été convaincu d'être baptisé, je ne comprends pas la différence. Parce que quand vous êtes convaincu de votre péché et de la nature du Fils de Dieu comme le fils, comme les nœuds éthiopiens, la prochaine étape est claire. Je veux vivre en nouveauté de vie. Que faut-il faire? Et quand on vous donne ces conditions, ce n'est pas seulement faire la prière, c'est aussi vous baptiser. J'ai vu des gens qui ont cru, ont-ils dit au Seigneur Jésus, et qui se sont fait baptiser 7 ans, 8 ans après. Pourquoi? Ils n'étaient pas encore convaincus de se faire baptiser. Oh, mes amis, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas la différence. Je ne comprends pas pourquoi c'est d'être aussi long. Pourquoi êtes-vous en quête de conviction au baptême? Le baptême, c'est le signe de ceux qui ont cru. C'est un geste naturel pour ceux qui ont cru. Actes des Apôtres 2, 46, on ne parle pas de baptême, on parle de la Sainte Cène. Et comme c'est fait au fait que dans l'Église, c'est conditionné par le baptême, c'est pourquoi j'insiste sur cet aspect. Actes 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La pratique de manger ensemble. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'a pas le temps de manger ensemble. Et ils mangeaient ensemble. Mais Christ nous a associés de manger ensemble, ne fût-ce que son corps, et de boire son sang. J'ai fini avec 1 Corinthiens 11, 20 à 22. Lors donc que vous vous réunissiez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur, mais quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. Paul est en train de s'énerver contre les Corinthiens parce que ils se rencontraient, quand ils se rencontraient, il y avait le repas du Seigneur. Comme c'était régulier, ils devaient rendre grâce au Seigneur, faire poser les gestes du repas du Seigneur, la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exagéraient. Les gens amenaient de la bouffe grave. Ils mangeaient, d'autres buvaient jusqu'au point de s'enivrer. Et le repas du Seigneur, qui était un élément du culte, s'est transformé en un boom, un brunch. Seulement, le repas du Seigneur est différent des nourritures d'agapé qu'on fait d'habitude. Le repas du Seigneur faisait partie du culte et de l'adoration. Si tu veux être complet dans ton adoration pour Dieu en venant au culte, le fait de participer à la Sainte Cène en fait partie. Mais c'est drôle de voir que même les musiciens, quand on fait passer la coupe, ils n'en prennent pas. Mais vous avez dit que vous êtes adorateur. Comment vous ne prenez pas la table du Seigneur? Demain, les amis, on va parler de quelques principes de base en ce qui concerne la signification même de l'adoration dans l'Église. Je veux partager quelques vérités de la véritable adoration pour que chacun de nous commence à bien saisir ce concept. Alors, voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.